Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce qu'une bonne police? Un texte de Amélie Pineda, paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir. Qu'est-ce qu'une bonne police? Pour Gino Iannone, la réponse à cette question a longtemps été de remplir ses quotas de contravention, de régler une intervention dans un temps record et de passer des menottes aux contrevenants. Mais quand il a vu que plus du tiers des appels faits au 911 étaient liés à des enjeux sociaux ou de santé mentale, sa vision du métier a tranquillement évolué. Un de mes rêves, c'était de faire partie du GTI, groupe d'intervention tactique. J'aime l'emploi de la force, j'aime le terrain, confie celui qui, comme plusieurs dans le milieu, a réalisé son rêve d'enfance en devenant policier. Au cours de sa carrière, il a d'ailleurs tenté à 3 reprises de rejoindre les rangs de cette prestigieuse équipe spécialisée, mais n'y est pas parvenu. Son parcours a de quoi surprendre puisque son quotidien est aujourd'hui à l'opposé des interventions armées à haut risque dans lesquelles sont plongés les policiers du GTI. Depuis décembre 2019, il est capitaine de la police de concertation, un poste créé dans la foulée de l'implantation du programme Immersion. Fadi Daguerre m'a confié qu'il m'avait choisi pour ce poste justement parce que j'avais un profil très carré et que, s'il était capable d'amener à se transformer un gars comme moi, ça voulait dire qu'on pouvait faire évoluer bien des policiers, raconte-t-il avec un brin de fierté dans la voix. Dans son bureau du quartier général du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, Gino Iannone l'admet. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait. « On a énormément froissé », se souvient-il. « Il fallait convaincre notre monde que, oui, ça prend de la répression, mais qu'au quotidien, on est beaucoup plus dans la prévention que dans la réaction. » Si ça tire dans une banque, c'est certain qu'on veut avoir des policiers du GTI. Mais ça arrive peut-être une fois tous les 5 ans. Au quotidien, on est beaucoup plus dans l'interaction humaine auprès de personnes émotives, intoxiquées ou en détresse. S'adapter à la nouvelle réalité. Encore aujourd'hui, au SPAL, comme dans bien d'autres corps de police, le principal défi est de réconcilier le camp des policiers interventionnistes avec celui des préventionnistes. Pourtant, le virage entrepris par Fadi Daguerre n'avait pas pour objectif de transformer la profession de policier, mais plutôt de l'adapter à la réalité du terrain, affirme Gino Iannone. Immersion, ça nous rappelle qu'il faut voir plus loin que la surface. Tu réalises que, quand tu poses des questions, quand tu prends le temps, tu vas plus souvent qu'autrement finir par désamorcer la crise. C'est notamment en visitant une école spécialisée auprès d'enfants autistes que Gino Iannone a constaté toutes les strates qui se cachent derrière une crise qui pourrait de prime abord avoir l'air dangereuse. Dieu sait que la dernière chose qu'un parent veut, c'est appeler la police. Puis là, tu arrives là, en urgence, tu vois un grand gars de 16 ans, un colosse, il crie, il frappe, alors tu te dis « danger ». Mais avant de sortir ton taser, est-ce que tu peux prendre le temps de respirer, de voir s'il y a un élément calmant pour lui qui pourrait aider à désamorcer la crise? Changer notre perception des éléments de dangerosité, ajoute-t-il, ça ne veut pas dire qu'on baisse la garde. Ça veut juste dire qu'on est capable de voir toutes les strates sous la surface. C'était « Qu'est-ce qu'une bonne police ?» un texte de Amélie Pineda paru le 25 janvier 2025 dans Le Devoir.
L'inaction n'est plus une option. Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 25 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Le Gris Montréal a publié les résultats d'une étude qui révèle, selon le communiqué de presse, une hausse préoccupante de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre. Mais quelle réponse apporter pour contrer ce malaise qui aurait doublé, selon les données, depuis 2017? Disons-le tout de suite, ce n'est pas une hausse préoccupante, mais une hausse inquiétante, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, avec la montée des discours réactionnaires que tiennent aussi bien des individus que des groupes religieux ou encore des dirigeants politiques. Certes, comme le souligne l'étude des plusieurs personnes convoquées par des médias pour la commenter, les médias sociaux seraient une fabuleuse caisse de résonance à ces discours homophobes et transphobes. Inconfort, malaise, préoccupant, un registre sémantique bien trop doux, alors que depuis longtemps les drapeaux rouges sont levés. Et toujours selon le communiqué qui reprend les mots de la directrice du Gris Montréal, Marie Ouzeau, l'inaction n'est plus une option. Mais quelles sont alors les options qui s'offrent à nous? Sur le terrain, les organismes communautaires ne lâchent pas, mais leurs actions ne dépassent pas les missions qu'ils se sont données. Et avec la foi du charbonnier ou de la charbonnière, elle existe aussi, ils continuent à apporter et à diffuser les meilleures informations et les meilleures pratiques, un peu chacun dans leur coin. Certes, ils se réunissent sous la bannière du Conseil québécois LGBTQ, mais pas au point de parler d'une seule voix ou, en tout cas, de façon collective et solidaire, pas au point d'oser exprimer leur inquiétude sur la place publique. Par crainte de jeter de l'huile sur le feu? Par peur d'ouvrir les vannes et que les discours haineux se déferlent et nuisent encore plus? Mais les vannes sont déjà ouvertes et il faudrait être sourd pour ne pas entendre tous ceux et toutes celles qui voudraient nous faire retourner au placard. Lors du symposium organisé par la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres et sa vie LGBTQ, une des intervenantes relatait que dans sa région, des parents avaient manifesté contre la venue du gris dans une école. Elle a terminé sa présentation en précisant que son groupe n'avait pas dénoncé cette manifestation pour ne pas susciter encore plus de colère de la part des opposants-opposantes. Une stratégie, celle de faire le gros dos, espérant que leur rage passe et fasse le moins de dégâts possible. De la même façon, quelqu'un que je ne peux nommer me disait que la majorité de la population en avait assez que l'on mette de l'avant les problématiques LGBTQ, en somme que l'on parlait trop de nous. La stratégie du silence, encore une fois, pour ne pas attirer les foudres. Pour se faire oublier, peut-être? Pour s'excuser d'exister? Quelles options prendre alors pour contrer et s'opposer à cette déferlante médiatique homophobe, transphobe, masculiniste, bien que je préfère le terme anti-féministe, quand on se contente de cultiver son petit jardin sans en sortir? Et encore, un masculiniste n'est pas un cheikh ou un imam en visite au Canada pour prêcher des règles religieuses qui sont 100 fois pires que celles énoncées par ces masculinistes. Curieusement, personne n'ose dénoncer l'entrée au pays de tels personnages qui sèment non seulement la haine, mais aussi incitent presque à la violence. « Ce n'est pas notre mission », me rappelle-t-on. « Mais alors, c'est la mission de qui ?» À moins d'émettre un autre constat, que la fin du militantisme nous a fait perdre toute vigilance, nous a fait perdre cette capacité de réagir collectivement comme communauté aujourd'hui attaquée. Et ce n'est pas du côté des gouvernements qu'il faut chercher de l'aide, surtout si, pour des raisons stratégiques et financières, on ose leur demander de prendre des positions plus fermes et d'être plus vocaux pour défendre les valeurs auxquelles ils souscrivent. Les données de l'étude du Gris n'ont suscité qu'une réaction de la part du ministre de l'Éducation du Québec, qui a déclaré qu'il allait prendre le temps d'analyser l'étude, selon le Devoir du 16 janvier dernier. Sur la même page du site du Quotidien, la ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, s'est dite préoccupée par la montée de l'intolérance dans les écoles du Québec. Elle a ajouté qu'il y avait encore du travail à faire et que le discours haineux n'a pas sa place au Québec. On aurait aimé des commentaires qui les engagent un peu plus et laissent entendre, on peut toujours rêver, que des mesures plus fermes seraient envisagées pour contrer le ressac auquel nous assistons. On sait que le gouvernement du Québec tient à ménager la chèvre et le chou et qu'il ne veut pas déplaire à une partie de son électorat conservateur, voire réactionnaire, tout comme à l'autre partie plus progressiste. Même si la chèvre est en train de dévorer le chou aujourd'hui. Devrons-nous nous contenter de constats et regarder la situation se dégrader et simplement s'en désoler? Devrons-nous nous contenter de regarder le train passer sans monter? Laisserons-nous certains organismes tirer seuls la sonnette d'alarme et défendre nos intérêts dans l'indifférence? Ou peut-être choisirons-nous de repenser collectivement nos stratégies pour continuer à être des réformateurs et des réformatrices sur le plan social et surtout des citoyens et citoyennes engagés pour la défense de nos valeurs. L'inaction n'est plus une option. C'était « L'inaction n'est plus une option », une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 25 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
De l'attente de sudation à la réconciliation. Un texte de Philippe Percure, paru le 23 janvier 2025 dans la presse. Elle est entrepreneure, autochtone, Innu, mot utilisé par les Innus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se désigner. Il est blanc, beauceron et PDG du groupe Canam. Mélanie Paul et Marc Dutille ont choisi d'aller l'un vers l'autre jusqu'à vivre ensemble un rituel spirituel qui a transformé leur vie. Aujourd'hui, ils nous invitent à suivre leur exemple et oser une réconciliation personnelle entre autochtones et non-autochtones. Des passages touchants, intéressants ou déroutants, ils n'en manquent pas dans le livre « Mocassins et bottes à cap » que signent Marc Dutille et Mélanie Paul. Mais permettez que je saute tout de suite au plus spectaculaire. Bref contexte. Les deux auteurs se rencontrent à l'école d'entrepreneurship de Beauce que Marc Dutille a fondée et que Mme Paul a fréquentée. Intrigués l'un par l'autre, ils s'engagent dans un profond cheminement visant à comprendre leurs cultures respectives. Leur démarche culmine dans une tente de sudation où des pierres chauffées à bloc rendent l'air si brûlant qu'il en devient difficile à respirer. Les deux amis vivent un rituel spirituel à Mashtoyash, la communauté de Mme Paul située au bord du lac Saint-Jean. Marc Dutille, en particulier, est loin de sa zone de confort. À un moment, l'homme d'affaires se recroqueville au sol, ses mains tentent de soulever la toile pour trouver de l'air frais. Au son du tambour, il vivra toutefois une véritable expérience spirituelle. Je me demande où je suis. Quelles sont ces vibrations, vieilles comme le monde, et quand je suis, écrit-il dans le livre. Lorsque j'ai la chance d'avoir M. Dutille et Mme Paul en rencontre virtuelle, je veux en savoir plus sur ce moment particulier. J'ai réalisé que ça fait 10 000 ans que ce son-là, ce tambour qu'on appelle Teekan, résonne sur ce territoire. C'est venu le temps d'un instant. Je n'avais jamais compris la profondeur de cette culture qui nous entoure. Ce moment me l'a fait comprendre, explique Marc Dutille. Mélanie Paul et Marc Dutille ne vont pas jusqu'à dire que chaque Québécois doit vivre une telle expérience pour contribuer à rétablir les liens entre autochtones et non-autochtones, mais ils souhaitent que nous nous inspirions de leur démarche pour tendre une perche vers l'autre culture, même si c'est maladroit et que ça nous rend vulnérables. Ce n'est pas juste politique, la réconciliation. C'est une histoire d'humain à humain, souligne Mélanie Paul. Pour y arriver, Madame Paul a un message pour les deux cultures. Aux Blancs, elle implore de surmonter la culpabilité qu'ils peuvent ressentir face au sort subi par les Autochtones. On ne peut pas être coupable de quelque chose auquel on n'a pas participé, dit-elle. Là où vous avez à vous sentir coupable, c'est si vous restez dans l'ignorance, si vous perpétuez des préjugés ou de fausses croyances en lien avec les Premières Nations. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour s'informer correctement. Quant aux Autochtones, Mélanie Paul les incite à laisser tomber la peur, la colère ou le sentiment d'injustice qu'ils pourraient éprouver envers les Blancs. Blancs et Autochtones se côtoient très peu, même s'ils vivent sur le même territoire. Comment, alors, entamer une démarche de réconciliation personnelle? Lisez, allez dans les communautés, participez au Power. Il y a des podcasts, des émissions sur les Premières Nations qui démystifient la vraie histoire. Intéressez-vous aux histoires à succès. Confrontez vos biais inconscients, recommande-t-elle. Fait étonnant, Mélanie Paul estime que le climat de rectitude politique actuel nuit à la réconciliation. Les gens marchent beaucoup sur des œufs, observe-t-elle. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle si je mets des boucles d'oreilles comme ça? Si je fais telle chose? Les gens ont peur de commettre des faux pas et ça n'aide pas. Mélanie Paul et Marc Dutil ont coécrit « Mocassins et bottes à cap ». Le livre insiste beaucoup sur le fait qu'il faut d'abord faire la paix avec soi-même avant de la faire avec l'autre, au point où on a parfois l'impression de lire un ouvrage de croissance personnelle. J'avoue en avoir été désarçonné par moments. Mélanie, par exemple, qui s'est longtemps sentie trop blanche pour les Autochtones et trop indienne pour les autres, a dû se réconcilier avec sa propre dualité avant de penser à une réconciliation avec Marc. Marc Dutil, un rationnel, s'ouvre aussi sur son cheminement vers une meilleure écoute de ses émotions. En parlant avec les deux auteurs, je comprends que cette dimension psychologique vise deux buts. Outre la nécessité de faire tomber ses propres mécanismes de défense pour pouvoir tisser des liens avec les autres, il y a aussi celle de comprendre les blessures subies par les Premières Nations. Les Autochtones consomment. Les Autochtones sont violents. Ils sont dans la pauvreté parce qu'ils ne veulent pas travailler. « Nomme-les, les préjugés, on les connaît, » lance Mélanie Paul. « Mais si tu comprends les blessures psychologiques qui amènent les mécanismes de défense, c'est là que tu peux éprouver de la compassion et aller au-delà de ce que tu vois. » Au terme de son cheminement, Marc Dutil parle aujourd'hui d'un déblocage. Au travail chez Canam, « j'ai des collègues qui viennent de la Roumanie, de l'Inde, du Cameroun, » dit-il. J'en viens à oublier qu'ils viennent d'ailleurs, mais pour un Québécois né dans les années 1960, quand tu côtoies quelqu'un qui vient d'une communauté autochtone, c'est extrêmement difficile de faire abstraction de la catégorie dans laquelle on a placé cette personne. Mais j'en suis venu à surmonter ça. Quand on a fait notre lancement de livre à Wendake, je ne savais plus qui était qui. C'était « De la tente de sudation à la réconciliation », un texte de Philippe Mercure, paru le 23 janvier 2025 dans la presse.
Danny Turcotte, le fou du roi, se met à nu. Un texte de Michel Lemieux, paru le 14 décembre 2024 dans Virage. Danny Turcotte a toujours été plutôt discret sur sa vie privée. Mais avec la publication de sa biographie intitulée « Des Turcotte et fils », le fou du roi qui suscitait les confidences « À tout le monde en parle », se déleste de son habituelle réserve. Au fil des pages de ce livre publié aux éditions La Presse, il relate une enfance marquée par la faillite et les problèmes de santé mentale de son père, et révèle aussi ses histoires d'amour, ses amitiés ainsi que son extraordinaire parcours professionnel. C'est en lisant la biographie de Stéphane Rousseau que Dany a eu l'idée d'écrire la sienne. L'exercice s'est avéré thérapeutique pour celui qui a vécu des événements traumatisants tant dans sa vie privée que publique. Finalement, c'est comme si ma thérapie était en vente, s'amuse-t-il à dire au sujet de son livre. Je ne parle pas que de moi, je parle beaucoup des autres. Outre le récit des événements qui ont jalonné ma vie, ce livre est aussi une manière de rendre hommage à des gens qui m'ont influencé, qui ont été mes mentors et qui sont décédés. Au fil des ans, l'humoriste et animateur a perdu plusieurs proches. Son compagnon d'humour et ami Dominique Lévesque, son ex-conjoint André, victime d'un accident de voiture qui l'avait laissé paraplégique, et Benoît, un compagnon de travail. Ces décès m'ont frappé en plein visage, dit-il. La vie se terminera pour tout le monde, mais nous ne savons pas quand. Heureusement, ça crée une urgence de vivre. Comme ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, ça m'a fait du bien d'écrire sur eux. L'écriture est une activité qui me va très bien. Toute ma vie, j'ai été entourée, avec le groupe sanguin, à Tout le monde en parle, à l'animation de La petite séduction. Maintenant, je suis heureux d'être seul, devant mon ordinateur, avec mon thé. De millionnaire à l'aide sociale. Si nous sommes le fruit de notre enfance, Dany convient que la sienne a largement contribué à l'homme qu'il est devenu. C'est une enfance qui m'a formé, croit-il. Nous sommes passés de millionnaire à l'aide sociale. Parce que mon père a fait faillite, je sais que l'argent peut disparaître. Ces événements ont fait de moi une personne prudente. Je suis surtout traumatisée de mon enfance. C'est quand même toute une débarque, une chute sociale. Quand j'ai commencé à passer le journal à 13 ans, ce n'était pas que pour le plaisir, il fallait que je le fasse. Ces événements ont contribué à faire de moi un homme sensible, attentionné et rempli d'empathie. Je comprends le malheur des autres, car j'ai baigné dedans. Le jeune Dany a évolué au sein d'une famille de 5 enfants auprès d'un père qui souffrait du trouble bipolaire sans le savoir. Il a toujours été un être d'exception. Nous ne comprenions pas ses comportements. Ça se bousculait dans sa tête, car la chimie de son cerveau était déréglée. Il buvait beaucoup, car c'était sa manière de s'auto-médicamenter. Parallèlement, c'est la personne la plus heureuse que j'ai connue. Il avait des aptitudes pour le bonheur, même à l'hôpital psychiatrique, même au fond de l'abîme. Je lui ai acheté une maison pour qu'il retrouve sa fierté. Et il était fier. Un jour, on l'a retrouvé mort en boxeur dans sa chaise berçante. Il a eu une belle mort. Ma mère, Noëlla, est toujours là. C'est une femme drôle, intelligente, cultivée. Comme mon père buvait et était souvent sur la route, elle a élevé ses 5 enfants toute seule. Deux sorties du placard. Quand on est connu, on a deux sorties du placard à faire. Une auprès de notre famille, l'autre auprès du public, rappelle celui qui a révélé médiatiquement son homosexualité en 2005, puis réalisé Le dernier placard, vieillir gay, un documentaire sur la réalité des personnes aînées issues de la communauté LGBTQ+. Je tiens à parler d'homosexualité car en 2024, il y a encore des préjugés, des remarques désobligeantes. Il faut rester vigilant. Célibataire depuis peu, Dani a vécu de belles histoires d'amour. « Habituellement, mes relations durent 7 ans, dit-il. Je n'ai pas été célibataire souvent. J'ai confiance en l'avenir, mais je vais peut-être rester seule jusqu'à la fin de mes jours. La solitude ne me fait pas peur, car on peut la briser. C'est important de le faire, car sinon, ça risque de miner la santé physique et mentale. » À la veille de ses 60 ans, Dani, qui est membre de la FADOC, demeure confiant envers ce que le futur lui réserve. « Compte tenu des pertes que j'ai connues, j'aborde la soixantaine avec beaucoup d'humilité. Il y a toujours la crainte de tomber malade, de perdre ses facultés, mais je vis au jour le jour. Je vais profiter du temps qui passe, avoir des projets qui m'allument. Mais avant de me lancer, j'analyse. C'est l'avantage de vieillir, on fait de bons choix. Enfin, en principe, rire. » Une vague de soutien. Du côté professionnel, Dani se sent aussi reconnaissant pour tous les projets qui lui ont été confiés. De marronne de journaux à Jonquière, au plateau de Tout le monde en parle, je suis fière de mon parcours. Je n'ai jamais manqué de travail depuis l'âge de 16 ans. Les projets se sont enchaînés comme un vrai domino. Quand j'ai arrêté Tout le monde en parle, ça m'a fait du bien. C'était la fin d'un essoufflement de 40 ans. Avec la pandémie, le direct, l'absence de public, les sujets qui tournaient autour des morts, des vaccins, des CHSLD, mon rôle n'était plus pertinent. À l'époque, le fou du roi a été happé par 2 grandes vagues. Celle des gérants d'estrade, qui l'ont critiqué, et l'autre de son fidèle public, solidaire, après sa démission. « J'ai senti une grande vague d'amour », confirme-t-il. « On me klaxonnait sur la rue, m'envoyait la main, m'arrêtait. Ça m'a vraiment fait du bien. Maintenant, mon grand plaisir, c'est de regarder l'émission chez moi et de pouvoir changer de chaîne quand ça me tente. » Rire. C'était Dani Turcotte, Le fou du roi se met à nu, un texte de Michel Lemieux paru le 14 décembre 2024 dans Virage.